Il y a une brosse de comptoir qui dit qu'elle doit être de 90. La brosse de comptoir, c'est la suivante. Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt.
Ouais, salut Daniel, salut à toute l'équipe, c'est Eric à Fayence là. C'est juste pour les gars du Diplo, j'aurais bien aimé que tu leur poses la question de savoir comment ça se fait qu'il n'y a aucun article sur les régionales dans le Diplo. Parce que c'est quand même dommage que on n'en soit pas là non plus à parler un petit peu de ces élections régionales qui approchent, parce que bien souvent par rapport au mouvement altermondialiste et tout ce qu'il y a autour du Diplo, d'attaque, de ton émission et bien d'autres, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais concrètement, vous prenez pas vos responsabilités. » Et en France, il y a des gens qui se bougent le cul, qui prennent leurs responsabilités. Et ça, à 13h, quand j'ai entendu sur les hautes informations de la façon dont ils présentaient les élections ici en PACA, il y avait 2 minutes sur le remplaçant de Le Pen, 30 secondes sur Muselier, 30 secondes sur Vauzel, et puis les autres, c'est de la drouille, c'est de la merde. Enfin, vendredi 5 mars, à Saint-Paul-en-Forêt, sur le canton de Fayence, on organise un petit débat, justement, pour parler de ça. L'implication des citoyens, justement, dans des élections régionales. Et il y aura les représentants de la liste région citoyenne par ici. Et puis à partir de 20h, il y a un petit apéro buffet avec Zine. Ça va être musical, ça va être sympa. Et puis hier, on était à Nice, il y avait un millier de personnes à se jeter dans la farine, dans la rue, tout déguisé. Et c'était bien chaud, ça faisait chaud au cœur. Ciao, viva, portez-vous bien.
Le rire est le propre de l'homme, disaient les philosophes. Peut-on rire de tout? Il semble que non. On l'a vu ces temps derniers. En d'autres temps, si. Je pense à des proches ou alors à Coluche. Rire de tout, oui, mais avec talent comme eux. Il me manque chaque jour, un peu plus. L'irrévérence et l'insolence font peur aujourd'hui. Alors on vit une époque formidable. Le rire contre la barbarie. J'ai envie de dire, réveillez-vous à l'instar de Valérie Lagrange, samedi dernier aux Victoires de la Musique. Ah oui. Il reste la musique. Salut, c'est Mireille, à Belfort.
Salut Daniel. Dans ton émission d'aujourd'hui, tu parles, enfin les gens du monde Diplo parlent de l'OCDE. Juste une petite info qui a peut-être déjà été donnée sur ton émission. C'est au sujet d'un document édité par l'OCDE qui se trouve facilement sur Internet. Il s'appelle Cahier de politique économique et je conseille aux gens d'aller chercher le numéro 13. Ça montre comment un gouvernement peut faire en sorte de modifier radicalement les lois, les droits des citoyens sans provoquer de vagues. Voilà, c'est un très bon document à charge.
Daniel, c'est Fred. Donc, comme toujours, ton émission fut modeste et géniale. Mais ce qui me gêne, c'est que les Halimi, Ramonet, Vidal, ils devraient aller défier le MEDEF et ses sbires sur les plateaux télé. Tu le sais bien, Daniel, c'est là que se font les opinions. Il faut sortir de son sanctuaire du 17h sur Inter, ou de leur sacro-saint monde diplomatique, qui ne prêche qu'aux convaincus, et qui, il faut bien le dire, n'est accessible qu'à trop peu de gens. Il est temps de prendre des risques, de clouer le bec à la pensée unique, de se frotter aux ridicules argumentations des chantres du libéralisme. Car sinon, ton émission ne sera comme ce mensuel, qu'un moment de bien-être qui permet d'accepter toute la merde ambiante, une soupape instrumentalisée pour ne pas que la marmite explose. C'est sans doute pour cela qu'ils ne t'ont pas encore viré, Daniel. Mais je te le dis, il n'est pas tant que la marmite explose, mais simplement que tes idées, nos idées, existent vraiment et ridiculisent les adeptes de la main invisible et du chômage volontaire.
Eh ben dis donc, hein, sérieux les critiques là aujourd'hui. Beaucoup de messages suite à l'émission d'hier avec l'équipe du Monde Diplomatique. Et aujourd'hui on va s'intéresser à beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, les endettés. Oui, les endettés. Et pas seulement les endettés, les surendettés, parce que nous c'est toujours au-dessus. Vous voyez de quoi on parle, de ceux qui sont en faillite sociale, qui se traduit par une faillite économique, et les remèdes et comment c'est vécu et où on en est de cette situation et des lois qui devraient apporter une réponse, et en quoi est-ce que ces lois peuvent être critiquées ou critiquables et surendettées. Auparavant, d'autres messages. sur le répondeur de la Passy J'y suis, dont vous connaissez le numéro 01 56 40 37 37.
Bonjour, Evéda, l'appareil. Écoutez, je suis un peu sidérée des propos que vous avez tenus hier soir lors de la discussion avec les journalistes du Monde Diplomatique, enfin, de la part des propos tenus par, en particulier, Bernard Cassen, qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de réaction à la politique de destruction de Rafah. Je suis assez sciée quand même. On a quand même assisté à une mobilisation très importante au printemps dernier. Et face à ça, bon, on a eu affaire à un gouvernement qui ne cédait pas. Mais pourquoi il cédait pas? Parce qu'il a en face de lui des dirigeants syndicaux qui sont complètement, qui protègent, qui refusent d'aller jusqu'au bout, qui n'ont pas appelé à la grève générale. Ensuite, aujourd'hui, il y a eu un diagnostic partagé sur la sécurité sociale. Donc les syndicats ont accepté de participer, et le PC et le PS, n'en parlons pas, à ce soi-disant diagnostic partagé, au nom du fait qu'il faudrait une réforme de la sécurité sociale, et aucun des dirigeants de ces soi-disant partis d'opposition ne parle de la manière dont le déficit de la sécurité a été créé artificiellement par la politique de destruction de cette même sécurité sociale. Aujourd'hui, les régionales, à travers les régionales, se profile le démantèlement total du service public. Aucun des partis ni des syndicats qui sont censés nous représenter, nous, le peuple, n'ouvre sa bouche là-dessus. Et vous dites qu'il n'y a pas de réaction. Non, moi, bon. Merci. Au revoir.
Bonjour Daniel Mermet. Bonjour aux éditeurs, aux auditrices. Le comité soutient Cesare Battisti, ancien militant italien, incarcéré à la prison de la Santé à Paris, qui passe mercredi 3 mars à 14h au Palais de Justice de Paris. Ses avocats y ont déposé une demande de libération. Il y a plusieurs rassemblements à Paris, donc à 14h pendant qu'il comparaît, à 14h devant le Palais de Justice à Paris, métro Cité. À Bordeaux, ça se passe devant le Palais de Justice aussi, c'est à 12h30. Il y a un rassemblement à Lyon devant le Palais de Justice à 13h. Toujours le 3 mars, devant le Palais de Justice de Marseille, c'est à 18h, à Montpellier, c'est à 12h30, à Pau, c'est aussi à 12h30, tout ça, c'est devant les Palais de Justice de ces villes, et à Douarnenez, une ville qui n'a pas de Palais de la Justice, c'est un rassemblement à 18h devant la librairie Libris, LIBR'YS. Voilà, demain, mercredi 3 mars, pour Cesare Battisti, en plus, il paraît qu'il a la radio maintenant. Ciao.
Monsieur Daniel Mermet, bonsoir. Monsieur Pontavricenia, j'apprécie fortement vos émissions à plus de 90%, mais je voudrais que vous entendre dire de demander aux Français et à tous les gens que vous touchez, puisqu'il est, le panel est énorme, immense, d'aller voter. Personne n'en parle et c'est là le grand problème.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Les polos, c'est nous les patrons, nom de Dieu.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec les rotaires, les surendettés.
Flight number 2, arriving from...
Si on veut de la croissance et de l'emploi, il faut impérativement, de façon urgente et forte, s'engager dans la réforme de la structure même de notre société, de façon à retrouver l'efficacité, base de la réussite de l'entreprise, donc de la croissance et de l'emploi.
Oui, oh, cet état d'esprit, oui. Ouais, c'est facile, hein? Hein? C'est du dénigrement. Bah oui, c'est du dénigrement. Voilà ce qu'on entend au sujet de notre gouvernement. Ça grogne, ça râle. C'est très français le dénigrement, alors que ces gens-là font un travail étonnant, étonnant. En même pas 700 jours. Regardez un peu ce bilan. Hein? Les retraites. Au boulot jusqu'à 107 ans, ou alors une assurance vieillesse privée pour les plus méritants. La justice, fini le laxisme gauchiste de ses juges et de ses avocats. Leur devise, justice partout, police nulle part.
Nous, les Français, nous voulons de la sécurité, nous voulons de la poigne, il faut nous en donner. Un autre aspect, la recherche, l'éducation, à quoi bon graisser ces parasites ingrats et ces contestataires incapables, alors que la recherche, ça regarde le privé, et que l'éducation, c'est quoi l'éducation? Eh bien, c'est un marché. Le code du travail, mais trop rigide, pas adapté, un obstacle contre l'emploi. Il faut de la flexibilité. Les impôts, trop d'impôts. On réduit les impôts pour les revenus élevés, sinon à quoi bon être riche? Alors réduction d'impôts dont les deux tiers bénéficient aux 10% de foyers les plus riches. D'ailleurs, l'excellent Francis Maire, on le disait hier dans cette même émission, Francis Maire, le ministre du Budget, a clairement exprimé la philosophie, l'idéologie de ce gouvernement, pas plus tard que le 15 septembre 2003 sur France 2. Je cite, « Ceux qui gagnent beaucoup d'argent le méritent, ils apportent à la société une valeur supérieure à ceux qui gagnent moins. » Fin de citation. C'est pourquoi, entre 2000 et 2004, les patrons des 40 plus grandes entreprises se sont octroyées une augmentation de salaire de 84%. Et oui, sans parler des petits avantages annexes. Mais enfin, 84% seulement. Alors on se moque, on dit des gaffeurs, des hésitants, un gouvernement à la dérive. On lisait ça dans le Monde diplomatique, encore hier, dans l'émission d'hier. Mais pas du tout, ils sont très très forts. Vous prenez le chômage. Ce qui compte, c'est pas le nombre de chômeurs, c'est le chiffre du chômage. Alors petit tour de passe-passe, réduction de la durée d'allocation de chômage, donc des chômeurs qui ne sont plus chômeurs, puisqu'ils ne sont plus indemnisés, donc réduction du chiffre du chômage. Et ça marche formidablement, et ça va marcher comme ça tout au cours de l'année. Mais là, c'était urgent de faire baisser ce chiffre à la veille des régionales. Non, c'est vraiment bien, vous savez, les rémistes. Et ces rémistes, vous les entendez, ces rémistes qui vont devenir des rémastes, d'ailleurs. Eh bien, ils se plaignent, alors qu'ils ont 13 euros par jour, quand même. C'est 13 fois plus qu'au Bangladesh. Et 27% des rémistes ont le bac. On a en France les pauvres les plus diplômés, et ça se plaint. Et c'est pas seulement là. Vous avez en France 1 500 000 familles qui sont surendettées. Des gens qui sont surendettés et qui se plaignent et qui ne sont pas contents. 200 000 familles bientôt seront en faillite civile. Qu'est-ce que c'est que cette faillite civile des familles? Je pense qu'il faut une émission comme celle-là jusqu'à 18h avec ce reportage de Claire Auter pour faire toute la lumière. Avec en tête cette phrase d'un certain Edmund Burke qui disait ceci. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les braves gens ne fassent rien.
Les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'éparpillement de mes frères, les copains du « c'est pas trop tard ». C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passer, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant « les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long et c'est pas fini, ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en furie. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. » Si on fait la collecte des rimes, c'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Quand de sublimes engueulades viennent allumer le petit jour, c'est la honte d'un monde malade. Et c'est pour ça qu'encore on courait. C'est pas fini, ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourrure. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. et vos têtes en timidité, tellement que vous aimez les autres. Pas besoin de vous imiter, passez, je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase, quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir des quand même contents. On se dit que ça s'appelle l'espoir, on se dit qu'on a encore du temps et que c'est pas fini et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque.
Oui. Surtout, c'est la peur de la boîte aux lettres qui, depuis que je suis surendetté, j'ai peur de, c'est stupide, de ma boîte aux lettres. De, je suis caché derrière ma porte et qu'est-ce que je vais avoir comme lettre aujourd'hui de ma banque? Et ça, c'est terrible. J'ai peur de ça. Même de la sonnette, parce que de l'huissier, d'un créancier, du coup de téléphone. Je ne réponds pas au téléphone parce que j'ai peur que ce soit un créancier qui me demande encore, hein, c'est de l'argent.
1 500 000 familles entendent cette chanson-là, ces mots-là. Le père qui parle, la mère qui parle, les mômes entendent cette chanson-là. Les surendettés. On parle pas des endettés aujourd'hui. On parle des surendettés. Les endettés, bon, ben voilà, c'est ceux qui se sont fait avoir, les consommateurs qui se sont fait avoir, fièvre acheteuse, société de consommation. On a une ardoise, on n'arrive pas à la régler. Et ça c'est les endettés. Mais avec la dégradation de la situation sociale, les jetés, les exclus, les tombés, eh ben, les dettes, ça continue de courir. Il faut payer, il faut rembourser, et on peut plus. Et les huissiers arrivent, et les contentieux foutent la pression. Et on est très nombreux à connaître ces situations dans notre pays. Alors, on a imaginé des remèdes et des répliques et le système de la faillite civile. Il y a cette loi Borloo qui, du nom du ministre Jean-Louis Borloo, qui dit que 200 000 familles arrivent bientôt dans cette situation de faillite civile. Alors, on a voulu avec Claire Autet en savoir plus, d'abord voir comment tout cela est vécu dans le quotidien, parce que s'il y a des auditeurs qui savent très bien de quoi ils retournent, et ben il y en a qui ignorent complètement ce que ça fait, ce que c'est dans la vie quotidienne. Et puis avec une association qui s'occupe des surendettés en Seine-et-Marne, on ira voir comment on fait, comment on se débrouille, comment on s'y prend. Et puis avec un juge. On essaiera d'aller plus loin pour comprendre comment cette loi, puisqu'il s'agit de loi, n'est peut-être pas aussi parfaite qu'on pourrait le supposer.
J'ai connu ça aussi.
D'abord, quand maintenant.
Hein, c'est stupide d'avoir peur d'une boîte aux lettres.
La sonnette qui sonne, c'est...
Sonnette, ouais.
Moi, j'ai peur, c'est l'huissier qui vient à la maison, c'est encore mieux.
Ça fait peur, on a peur. On est comme des voyous.
Le facteur vient avec une mobylette. On l'entend de loin.
Oui.
Et dès qu'on entend, il passe vers 10h, dès qu'on entend la mobilette, il dit, ça y est, le facteur. Qu'est-ce qu'il va m'emmener? Et alors là, c'est le stress et la grosse pression.
Je me suis surpris à espionner mon facteur, parce que je peux voir à 200 mètres arriver mon facteur. Oui. Donc, je me suis surpris à l'heure où il arrivait, à ouvrir la fenêtre, le voir, et refermer la fenêtre, et ouvrir espérant pas le voir, en fait. C'était idiot. C'est idiot, non, mais on est dans un état de stress et on fait des choses vraiment incroyables. La peur de la boîte aux lettres, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Je peux vous le dire, c'est terrible. On n'endort pas la nuit. Vous savez, quand on est surendetté, on ne dort pas la nuit. Et on a les courriers, pareil. Hein? Si c'est de la publicité, contrairement à beaucoup de gens qui vont voir de la publicité, on est content. Parce que on la fout à la poubelle tout de suite, on ne peut plus s'acheter des trucs de toute façon. Mais si c'est une lettre où il y a marqué, dans mon cas, BNP Paribas, on sait que ça ne va pas être gentil. On ouvre, et on regarde, vous savez, du coin de l'œil comme ça, de quoi il s'agit. Alors, bon, ça commence pas bien du tout. Hein? Bon, et on met sur un tas. Et on a plein de tas chez nous de lettres, on ne sait pas quoi faire de tout ça. Hein? On est complètement désemparés.
Alors, où sommes-nous? Eh bien, on est à Lagny, en Seine-et-Marne, dans une petite association dirigée, animée par Monsieur Robert Scalès, qui reçoit comme ça des personnes surendettées. Le surendettement en France a augmenté de plus 140% en 10 ans. C'est une situation qui n'est pas, encore une fois, liée à l'hyperconsommation. C'est une situation qui est liée à la situation sociale des uns et des autres. Voilà comment Robert Scalès présente son association.
Entrez. Bonjour.
Bonjour.
Asseyez-vous. Bien. Alors, surtout, monsieur l'apôtre, on met tout sur la table.
Actuellement, je suis en accident de travail. Et ma femme est au chômage.
Combien vous gagnez par mois?
Actuellement, j'ai 9300 francs d'indemnité journalière par mois.
D'accord.
Mon crédit, il y a 4 crédits, ça monte à 8000 francs. J'ai un découvert à la banque, ça c'est pour les dettes, plus, bien sûr, UTF, téléphone et tout ce qu'il me faut pour vivre. Avec 9300 francs, voilà.
Vous êtes en situation de surendettement.
D'accord.
Maintenant, je vous accompagne jusqu'au bout. Et vous expliquer comment on va s'en sortir. Mmh. Il faut que le dossier soit complet. Parce que moi, je vais l'envoyer à la Banque de France. Vous allez être soumis à des pressions terribles de tous les créanciers qui vont vous téléphoner de partout en vous demandant chacun le maximum. Mais surtout, vous ne craquez pas. Qui me téléphone? Et moi, je m'occuperai d'eux.
Eh ben voilà, c'est ferme. Voilà quelqu'un de ferme, un côté un peu Zorro. On a envie de lui amener le dossier. Et puis, voilà. Précision sur les motifs et les motivations et l'expérience du responsable de cette petite association, Robert Scalès.
Moi, je me suis retrouvé au chômage à 50 ans. C'est-à-dire que j'avais commencé à 15 ans, donc au bout de 35 ans. Je me suis retrouvé sans emploi. Entre-temps, j'avais fait construire ma maison, donc j'étais en surendettement. Puisque de toute façon, je ne retrouvais plus de boulot parce que j'ai plus de 50 ans, j'ai créé une association. Et en plus de ça, comme j'ai travaillé dans la banque et dans les assurances, c'était plus facile pour moi d'approcher les chiffres et de savoir remplir un dossier. On est à Lagny, donc Lagny qui est la troisième ou quatrième ville de la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est la moitié de la région Île-de-France. Ils vous vendent des baraques qui valent 1 million, 1 100 000. Les gens s'engouffrent parce que on vous propose un package, c'est-à-dire banquier, crédit, etc. Ils achètent et puis d'un seul coup, après, peut-être chômage. Donc, le département de la Seine-et-Marne, dans les 4 ou 5 départements sinistrés, il est bien placé. Là, on assiste depuis 2-3 ans à un surendettement qui touche pratiquement toutes les couches de la population. J'ai un dossier d'un jeune de 22 ans qui sort de la DAS, qui vit en foyer, bon, il s'est un petit peu endetté, et maintenant il est en surendettement. Et ça va donc jusqu'à des retraités. Et entre les grands-parents, les parents et les enfants, il y en a au moins 1 sur 3 qui est au chômage. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont 70 ans, et puis qui se retrouvent en surendettement. Comment devient-on surendetté? C'est parce qu'à un moment donné, on ne peut plus subvenir aux charges fixes. On peut pas faire autrement que de payer son électricité, parce que maintenant, ils coupent le jus. Avant, on n'avait pas le droit de couper le jus. On arrive maintenant à couper la flotte. Parce que tout ça, ça s'est privatisé. Vivendi, paf, on coupe la flotte. Vous vous rendez compte? Les loyers, c'est tout de suite, au bout de 3 mois de loyer, c'est la lettre d'huissier avec menace d'expulsion.
J'ai été coupé l'électricité pendant 7 mois.
7 mois.
7 mois. À la naissance de ma fille, en mars, j'étais coupé jusqu'à la fin de l'année, pratiquement. À la bougie, tout le temps, à la bougie, tout le temps, à la bougie. On m'a coupé l'eau aussi il y a 6 ans, pendant 3 mois. J'allais chercher de l'eau en bas dans une source, on faisait comme on pouvait.
Non, pas encore, parce que je fais attention.
Avec 2 enfants handicapés. Hein.
Oui, ils n'ont pas prévenu.
Je crois que les années pauvres, on est en train de les connaître. Compte tenu du cassage des acquis sociaux qu'on a pu attraper, conquérir, 36, 68, 47. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les salaires n'augmentent pas. Les loyers, eux, augmentent. La carte orange augmente. En fait, toutes les charges augmentent. Donc forcément, il y a un goulot d'étranglement.
Parce qu'un smigard paye des impôts, je peux vous le confirmer. Un smigard aujourd'hui paye des impôts. Faut le savoir. La baisse des impôts chiraciennes, c'est une baisse pour les riches, c'est pas une baisse pour les pauvres. Et je peux vous dire qu'il y a une cité au-dessus qui s'appelle Logirep, un loyer impayé, l'aide d'huissier. L'aide d'huissier, tout de suite, hein, 24 heures après, vous êtes en retard d'un seul loyer, vous avez une aide d'huissier avec injonction, ils font peur. D'ailleurs, ils sont totalement au-delà de la loi parce que les créances en dessous de 3000 francs, elles sont insaisissables. Parce qu'il y a eu quand même des lois, malgré tout, sous la gauche, hein, qui rendent insaisissables certaines sommes. Mais ils s'en foutent. Alors, les gens qui sont déjà un peu dans les ennuis, ils reçoivent une aide d'huissier, pour eux, c'est terrible.
Tu es le soleil de ma vie.
Le crédit de mes envies, c'est tentant, ça, non? Ça vous tente pas, vous? Ah, moi, je trouve ça vachement tentant, hein. Le crédit de mes envies, le crédit gratuit, vous achetez, vous payez plus tard, vous achetez même pas, vous emportez ça, allez, on verra bien, allez, on est entre nous, etc. Et voilà, c'est le crédit à la consommation qui est de plus en plus facile, vos revenus, mais non, c'est pas, non, c'est, on n'a pas besoin de tout ça, on vous fait confiance, voilà, c'est amical, c'est sympa, c'est Sofinco, c'est Cofidis, c'est Mediatis, c'est Télème, etc. Et alors, évidemment, c'est des crédits qui n'ont rien à voir avec les revenus des consommateurs en question. Et alors pourquoi? Alors eh bien parce que la plupart des consommateurs finissent par payer de gré ou de force et à des taux extrêmement élevés. Si c'est de force et qu'au total, évidemment, on s'en serait douté, c'est rentable pour ces compagnies de crédit à la consommation. Le crédit, l'encadrement du crédit, c'est important, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose d'éminemment politique, que ce soit le crédit pour les activités économiques ou pour la consommation, c'est des choix, c'est des orientations, on en connaît les effets et avec le temps, eh bien, les politiques ont changé.
Dans les années 50-60, on vivait avec les quatre grandes banques traditionnelles, c'est-à-dire BNP, Société Générale, Crédit Lyonnais. Et puis après, s'est mis en place tout un tas de réseaux d'établissements financiers, Sofinco, CTLM, Cofinoga, Mediatis. Il y a même Carrefour. Vous allez à Carrefour demain matin, ils vous demandent trois fois rien, une fiche de salaire, et ils vous font un crédit de 15 à 20 000 balles. Vous voyez, alors, tout le monde fait du crédit aujourd'hui. Et puis il y a aussi ces crédits scandaleux qui sont les crédits disponibles, le crédit revolving, comme on dit, dans lequel on rembourse jamais. Lorsqu'ils font le crédit, ils l'ont déjà provisionné. C'est-à-dire que vous allez emprunter 20 000 francs, mettons, à CTLM. Ils jouent sur la quantité parce que c'est des chiffres énormes. Ils savent très bien qu'ils vont avoir 20 à 30% de pertes, donc ils provisionnent. Ensuite, ils confient ça à des boîtes de recouvrement qui sont des requins, qui montent dans les étages. C'est des mecs qui roulent en Mercedes, sans foi ni loi, et qui menacent les gens pratiquement à la limite des menaces physiques. Bien sûr, ils s'en foutent, les huissiers, parce que eux, à chaque fois qu'ils envoient une signification, ils touchent 1000 à 1500 francs. Parce que il faut comprendre que dans ce métier, il y a un turnover très important. On embauche des jeunes qui ont fait un BTS commercial. On leur dit, voilà, tu vas relancer les gens qui ne paient pas et tu toucheras 20% sur chaque argent que tu récupères. Alors vous pensez que le type, il fait n'importe quoi. Et surtout, dans le monde de la banque, les employés sont soumis à des objectifs quotidiens. C'est-à-dire que tous les soirs, on leur demande, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Combien de crédits? Combien de cartes bleues? Il faut qu'ils remplissent leurs objectifs. Donc quelqu'un qui vient demander un prêt, même s'il sait que, il le fait. Il dira à son chef le soir, j'ai fait un prêt.
Son rêve n'appartient qu'à elle. Le sien n'appartient qu'à lui. C'est pourquoi Sofinco a créé le prêt très personnel. Un prêt de 5 000 à 140 000 francs où vous choisissez tout. Le montant des remboursements, leur durée et surtout ce que vous voulez offrir.
Pour votre prêt très personnel, appelez dès maintenant Sofinco au 0800 101 102.
Choisissez tout, le crédit de mes envies, voilà, le crédit facile, hein, c'est voilà, c'est la carte bancaire au coin de la rue. Votre gosse vous dit on va prendre de l'argent, on achète de l'argent, tout ça, c'est la vie facile, c'est la vie fluide, c'est la vie flexible, et tout va bien, sauf le moment où ça va plus, et ça devient quand même l'angoisse, ça devient une tragédie pour, encore une fois, je le répète, ça peut paraître un chiffre tout à fait énorme pour 1 500 000 familles qui, au moins, qui vivent dans cette situation de surendettement, encore une fois, due à des accidents de la vie, évidemment, essentiellement, le chômage, mais ça peut être la maladie, ça peut être des divorces, enfin, toutes les choses, tout ce qui nous arrive dans l'existence, et que la société, comme on dit d'un mot vague, doit ou peut, en tout cas, on l'a montré dans le passé, on le montre encore, il y a encore des filets de protection, voilà, c'est ça l'entraide, c'est ça la solidarité, c'est des choix. À chaque fois, on se trouve en face de, ou bien une société de compétition, une société de risque, comme disent ceux qui n'en prennent aucun, ou bien une société de solidarité, ou bien rivalité, ou bien solidarité, ça peut difficilement être les deux à la fois. Or, on le sait, on le voit, on a pris est-ce qu'on nous a demandé vraiment notre avis? Parce que si on regarde les sondages et les indicateurs, si on se fie à certains observateurs pertinents, on voit que ce néolibéralisme-là, on l'accepte pas si facilement, sinon on ne tromperait pas autant. Souvenez-vous des retraites l'an passé, et on va voir ce qui va se passer avec la sécurité sociale. Vous avez aimé les retraites, vous allez adorer la sécurité sociale. On voit bien qu'il faut duper, il faut tromper, on appelle ça de la pédagogie, il faut expliquer, surexpliquer. Non, c'est une façon de nous vendre des choses qu'a priori nous n'acceptons pas, nous sommes un peu rétifs, mais voilà, c'est une époque. C'est l'époque dans laquelle nous vivons.
Il y a deux manières de poser le problème du crédit. La première manière est de créer un fichier du crédit. Et on fixerait, semble-t-il, un revenu minimum en dessous duquel on ne pourrait pas prêter de l'argent ou la banque serait fautive. Alors, moi je suis tout à fait défavorable à cette proposition parce que elle va revenir à interdire l'accès au crédit à toute une partie de la population, tous les gens qui ont des salaires faibles, moyens, et donc d'avoir accès à des moyens d'insertion vitaux. D'avoir un frigo, c'est pas de la consommation, c'est de l'insertion. D'avoir une voiture, c'est pas de la consommation, pas forcément de la consommation, c'est de l'insertion. Donc, interdire à une population le crédit, c'est à mon avis une mauvaise chose. La deuxième proposition, qui est à ma faveur, c'est de dire que la prévention de l'excès de crédit, elle doit se faire par la voie de l'économique. C'est-à-dire que il faut bien comprendre actuellement que les taux pratiqués par les banques, notamment en matière de crédit revolving, sont extrêmement élevés, entre 15 et 17 %. Ça veut dire que les banques ont une marge bénéficiaire extrêmement importante, qui est de plus de 10 %. Dans ces conditions, le fait qu'elles aient un certain nombre d'impayés, qu'elles aient des gens pour lesquels elles n'arrivent pas à recouvrir les sommes, c'est peu important parce que s'il y a un crédit sur 20 ou sur 30 qui n'est pas payé, mais qu'on a un taux à 10 %, eh ben la marge bénéficiaire sur les 29 qui payent est largement supérieure à la perte qu'on va faire sur le crédit. Donc, tout pousse actuellement les banques à prêter de manière imprudente parce qu'elles savent que la plupart des gens vont faire tout leur possible pour payer, même jusqu'à se mettre dans des situations de vie très difficiles, et que ça va compenser les pertes qu'elles ont. La solution, c'est donc la baisse du taux du crédit. C'est lorsque les banques auront l'obligation de prêter moins cher, qu'elles feront moins de bénéfices et qu'elles devront être plus prudentes. Et également, ce sera important pour les emprunteurs, parce que ces taux très élevés, il est bien évident qu'ils ne me sont pas appliqués à moi qui ai des bons revenus. Moi, je vais emprunter à 5 %. Ils sont appliqués à la population la plus fragile, la plus pauvre. En d'autres termes, plus on est pauvre, plus on paye cher. Donc, au lieu que le taux d'usure soit, comme actuellement, défini par les banques, il faut que l'État parce que l'État, dans une société comme la nôtre, dans une société social-démocrate, l'État est garant de l'excès, est garant de l'interdiction de l'excès, c'est l'État qui doit fixer le taux d'usure, qui doit le fixer à des niveaux beaucoup plus bas qu'actuellement, il est à plus de 20%, et c'est à l'État de reprendre une véritable politique économique et de diriger la politique du crédit. Alors, bien évident que c'est pas notre gouvernement libéral, on peut le penser, qui prendra une telle mesure, mais c'est la seule mesure de véritable prévention des excès du crédit.
Mon mari travaille, moi je travaille pas,
qu'est-ce qu'il fait,
il est serrurier. C'est le soutien familial, donc il n'a pas assez. On n'a pas assez pour vivre, nous manger, ou payer nos dettes, nos loyers, les factures, on n'a pas assez.
Voilà, ça c'est Maria, et auparavant c'est Étienne Rigal, qui est juge, et qui s'est spécialisé dans ces affaires de surendettement, et qui explique très précisément en quoi... Il illustre avec le langage juridique la fameuse phrase, la fameuse boutade d'Alphonse Allais que vous connaissez, qui dit « il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres ». Alors on croit que c'est une blague, eh ben non, ça s'avère tout à fait vrai, plus on est pauvre, plus on paye cher. Quant à la loi... Et à la liberté, la libre entreprise, la liberté, le libéral, enfin ce mot qui est partout, je suis libre, etc. On l'entend dans nos pubs sur notre radio. Lacordaire, ça vous dit quelque chose, Lacordaire? Eh bien, Lacordaire disait ceci, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Je vous la refais parce qu'elle est quand même assez, c'est quand même assez costaud, ça. Hein, c'est vraiment une, ça colle tout à fait avec ce que dit ce juge Étienne Rigal. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voilà comment Maria vit tout cela.
J'étais agent de surface dans les magasins. Je touchais pas grand chose. À cette époque-là, on touchait 2800 francs. Mais c'était beaucoup pour le soutien de familial. J'ai été renversée par une voiture. À partir de là, toute ma vie a bousculé. On se trouve encore avec un enfant de 17 ans à la maison, plus un autre de 24 ans. Pour le moment, il travaille, mais il est accidenté aussi. Donc tout ça, ça nous tombe sur le même salaire. C'est-à-dire tout est retiré de 1260 euros par mois. On avait un crédit CTLM pour 36 mois. Au départ, c'est très facile de vous faire un prêt...
Un prêt à la consommation.
Oui, ils m'ont simplement demandé combien que mon mari touchait, combien je touchais d'allocation, qu'à ce moment-là, je touchais pour deux enfants. Et le jour même, ils m'ont accordé 20 000 francs. Sans signature de mon époux, qui a fallu que j'amène les papiers à la maison pour qu'il signe lui-même. Et le lendemain, lui amener, c'était tout. C'était trop, trop facile. Et à partir d'un an, on ne peut plus payer nos mensualités. Et on s'est trouvé donc très endettés. Ils nous téléphonaient pratiquement tous les deux jours. Les lettres recommandées, tout le temps. J'avais la peur des boîtes aux lettres, la peur de la sonnette.
Et là, maintenant, vous avez déposé un dossier de surendettement?
Oui, ça fait un an. Ça va nous soulager pendant 36 mois. On ne paiera que le loyer, l'eau, l'électricité, la nourriture, tout ce qui suit, quoi. Mais on n'en a pas assez. Même comme ça, on va se trouver de nouveau... C'est-à-dire, si je paye le loyer, si je paye la facture qui va arriver, là, il n'y a plus rien. Et à la maison, on essaie toujours de faire semblant. Pour pas que les enfants voient quelque chose qui ne va pas. On le fait. J'ai essayé d'aller au Secours catholique, au Restaurant du Cœur. On m'a dit non, parce que mon mari a un salaire, donc je dois me débrouiller par mes moyens.
Et pourtant, ce salaire, il réussit pas à vous faire vivre?
Non, pas du tout. Donc, il est obligé de demander beaucoup de fois un acompte à son patron, même avant la fin du mois. Et à la fiche de paye, beaucoup de fois, il a 50 euros, 60 euros, puisque tout l'argent est déjà parti. Il devrait pas regarder le montant de salaire de l'époux, mais regarder vraiment ce qu'on peut payer avec. Et ça, il ne regarde pas. Donc ce mois-ci, justement, par rapport à la Banque de France, je devais commencer à payer mon loyer. Je n'ai pas pu, puisque j'ai eu d'autres frais à côté. C'est un engrenage. Non, on vit plus. On survit. On vit pas.
Je peux plus travailler.
Alors, en 10 ans, le nombre de surendettés a augmenté de 140%, mais on a pris des mesures. Vous vous souvenez peut-être de la loi Leyertz en 1989, le 31 décembre 89, qui a institué la procédure de surendettement pour venir en aide aux familles qui tombent dans l'urgence sociale. Bien, et puis cette loi a connu un certain nombre de réformes en 98, le texte de Martine Aubry qui visait à renforcer la protection des personnes confrontées au surendettement, qui instaurait un reste à vivre. C'est une belle expression, ça, le reste à vivre, qui créait un lié au un régime d'effacement des dettes. Et puis apparaît aujourd'hui la loi Borloo, la fameuse loi Borloo. Alors voilà ce que Robert Scales, qui est je vous le rappelle, qui s'occupe de cette petite association qui vient en aide aux surendettés, en pense.
Borloo, donc, comme chacun sait, c'est le ministre de la Ville. Il a dit, on va mettre en place le système de la faillite civile. C'est quelque chose qui existe en Alsace. En fait, c'est un dépôt de bilan. Donc, la loi Borloo, c'est, on efface les dettes. C'est la faillite, donc on dépose son bilan. Le seul gros avantage, si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a effacement des dettes. C'est quand même pas rien. Alors que dans la loi Neyert, il n'y avait pas effacement des dettes. Et moi, j'ai un petit peu peur, comment vont-ils appréhender l'actif? Si demain matin, je vais dans un HLM, avec des gens qui ne sont pas très riches, comptent-ils en actif? Ils ont un buffet, ils ont des chaises, ils ont une table, ils ont la télé, ils ont des bricoles. Et puis, c'est de l'actif. Dans cet actif, l'huissier ne se gênera pas pour dire c'est de l'actif, on va le vendre. Ensuite, les gens seront convoqués au tribunal d'instance et feront état eux-mêmes de leur passif et de leur actif.
Alors, il y a ça dans la loi Borloo, comme le précise Robert Scales. Il y a aussi que lors de la présentation de la loi au Parlement, le Parlement a supprimé la disposition du texte de loi qui concernait les prestations insaisissables. Et ça revient à sanctionner une faute, alors qu'il n'y a dans la plupart des cas aucune faute. On l'a dit, il s'agit d'accidents de la vie. Un accident, c'est pas une faute. Il y a environ on compte à peu près 20%, pas plus, de cas qui sont liés à un abus de crédit, quelqu'un qui s'est fait avoir et qui a pris trop de crédit. Mais la plupart des surendettés sont surendettés suite à chômage, accident de travail, précarité, etc. Point de vue d'Étienne Rigal, magistrat.
Ce qui a été mis en avant dans la loi Borloo, c'est cette procédure de rétablissement personnel qu'on appelle communément la faillite civile, et qui consiste à dire que quelqu'un voit ses biens vendus, à l'exception des biens nécessaires à sa survie, des biens minimaux, mais l'ensemble des biens est vendu lorsqu'il est en situation d'insolvabilité, et en échange de la vente de ses biens, l'ensemble de son endettement est effacé, est annulé. On remet la personne, je dirais, à zéro quant à ses dettes, mais il faut aussi ajouter à zéro quant à ce qu'elle a chez elle, quant à ses biens. Ce n'est pas si innovant que ça, bien au contraire, puisque la loi Aubry, qui était la loi de lutte contre l'exclusion en juillet 98, réformait le surendettement, elle avait prévu déjà la possibilité d'un effacement total ou partiel des dettes. À cette différence près que la vente des biens de la personne surendettée n'était pas obligatoire. Donc, à nombre égal, moi, je suis obligé de constater qu'on vendra plus de biens des débiteurs qu'on ne le faisait avant. Lorsque Madame Aubry avait fait voter sa loi, elle avait, et c'est quelque chose qui pour moi était tout à fait fondamental, dit que dans le cadre de la procédure de surendettement, il fallait laisser aux gens un minimum restant à vivre. Il se trouve que la Cour de cassation, dans un arrêt de mémoire de 2002, est venue dire qu'il fallait appliquer le barème non seulement sur les revenus salariaux, mais sur les prestations sociales et familiales. En d'autres termes, sur les allocations familiales et sur les allocations de logement. Et on prenait ainsi beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu dans l'esprit de Madame Aubry quand elle a voté sa réforme. Monsieur Borloo a voulu revenir sur cette jurisprudence, sur cette décision de la Cour de cassation, en affirmant que les prestations sociales, les allocations familiales, les pensions alimentaires, les allocations logement, dans la mesure où ces sommes étaient destinées à l'éducation des enfants, ne devaient pas contribuer à l'apurement des dettes. Malheureusement, le Parlement n'a pas adopté cette disposition, je pense contre l'avis du ministre, et pour les députés, il fallait prendre en compte les revenus familiaux pour payer les créanciers. Il y a une image qui, pour moi, est très forte. L'allocation de rentrée scolaire, si on en croit le Parlement, à majorité UMP, l'allocation de rentrée scolaire sera en partie versée aux banques créancières de la famille. C'est-à-dire que cet argent qui est destiné à permettre à l'enfant de rentrer en classe dans de bonnes conditions, ben, il va pouvoir aller pour partie aux créanciers des parents. Je pense qu'on est là dans un détournement de l'idée même de prestations sociales et familiales et qu'on a privilégié le droit des créanciers sur le droit à une éducation décente des enfants. Il y a vraiment là quelque chose qui me paraît extrêmement grave et je regrette vraiment que le Parlement n'ait pas suivi le ministre sur ce point.
On travaille pourquoi ? Faut payer. Si tu veux manger, faut payer. Si tu veux te vêtir, faut payer. Si tu veux quelque chose, faut payer. Moi, je voudrais bien retravailler, mais bon, j'ai 52 ans, j'ai été en NPE il y a 3 ans, j'ai dit, bon, ben, je ferai le ménage, je ferai n'importe quoi. Il m'a dit, madame, vous avez quel âge? Je dis, ben, j'avais, à ce moment-là, j'avais 50 ans. Il m'a dit, ben non, madame, c'est trop tard, vous auriez dû vous inscrire à 46 ans. Donc, tu jettes une porte fermée de nouveau. J'en ai essayé pas mal, j'ai gardé les enfants, j'ai tout fait, mais ça ne réussit pas. Moi, il me manque toujours 300 euros par mois. M. Scalès arrive donc à voir cette solution pour la loi qui va passer. Ce serait formidable qu'on puisse revivre.
La loi Aubry prévoyait qu'une personne...
De l'espoir dans cette loi Borloo de la part de Maria, en tout cas, et bon, pourquoi pas, on peut, mais voyez les nuances et les bémols et les critiques qu'on peut apporter à cette loi, que ce magistrat Étienne Rigal apporte à cette loi, et l'augmentation très importante de personnes et de familles, 1,5 million familles qui se trouvent dans la situation que vient d'évoquer Maria et que nous raconte Sandra.
Je m'appelle Sandra, j'ai 38 ans, j'habite en Seine-et-Marne, j'ai une fille de 19 ans, je suis femme de ménage. Je commence à 15h30, je finis à 23h. Et le soir, quand je rentre, il fait nuit, je gagne que 900 euros par mois. Bon, bien sûr, je fais des heures supplémentaires, mais je m'en sors pas, j'y arrive pas. Je me dépense dans le travail, mais j'ai rien. J'ai même plus de vie, j'ai plus rien, je travaille y compris le samedi matin. Je me lève à 5h30, je commence à 7h, et je finis à 13h30. J'ai pas de week-end. Je me dépense dans le travail, mais j'ai rien. J'en pouvais plus, je pouvais plus payer mes factures ni rien. J'ai fait un crédit pour mon frigo, mon congélateur et mon canapé par un organisme de crédit, ouais, CTLM. J'avais des remboursements de 228 euros, c'est-à-dire 1500 francs tous les mois à donner.
Avec un salaire de 900 euros?
Avec un salaire de 900 euros. Ouais, c'est fait que j'ai arrêté carrément de payer. Ils m'ont envoyé des lettres, ils m'ont relancé jusqu'à avoir des lettres de l'huissier. J'ai très peur, c'est le l'huissier qui vient de frapper à ma porte. Je suis à zéro. Il y a même des fois, je ne mange pas. Je bois des cafés au lait sur café au lait.
C'est pas une vie pour moi. C'est pas une vie. Ma fille, elle fait tout son possible pour trouver du travail. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a rien. Et c'est pas facile. J'ai rien chez moi, j'ai rien. Alors je vous dis franchement, je vis vraiment sur le strict minimum. Il y a même des jours, j'ai les nerfs à bout. Des fois, je rembourse 150 euros, 228 euros. Pour un salaire de 900 euros, je m'en sors pas. Malgré que je fais des heures supplémentaires. Je m'en sors pas, j'y arrive pas.
Qu'est-ce que ça serait la solution?
La solution, ça, je vous dis franchement, de retirer toutes mes factures. Carrément, mon dossier de surendettement. Là, ça serait mieux. J'y arriverais beaucoup mieux. C'est pour ça que ça serait bien si la loi pouvait passer très rapidement, la loi Borloo et...
On a dû!
C'est quoi? C'est ça la vie, hein? Ben, ça résonne.
Il circule un pré-projet, une idée qui serait une mesure dite d'accompagnement budgétaire et familial judiciaire, qui viserait à enlever à des personnes qui ont des difficultés de gestion, on va venir leur enlever la gestion de leurs revenus, et donc un organisme paiera leurs factures et leurs charges et leur laissera uniquement l'argent pour les courses. On voit bien l'idée quand même que, d'accord, on crée une procédure de surendettement parce que c'est nécessaire, mais en même temps, ces gens qui sont surendettés, quelque part, ils sont fautifs, quelque part, ce sont des mauvais gestionnaires, et s'ils ne se remettent pas dans le droit chemin, eh bien, il faut que l'État leur enlève toute capacité de gestion. On a... une contrepartie au surendettement qui serait une mesure de contrôle social extrêmement forte, qui va amener des gens non pas à apprendre à gérer, mais qui va les infantiliser, encore une fois, parce que la majorité, la grande, grande majorité des situations de surendettement n'est pas due à une faute, est due à un accident de la vie, il faut le répéter, et il faut qu'on arrête de sortir de cette culture qui consiste à dire qu'une personne qui est surendettée est une personne systématiquement fautive. Je crois que ça, c'est quelque chose qui imprègne encore l'ensemble de nos mentalités, y compris dans les associations, y compris chez les travailleurs sociaux, ou au moins chez certains d'entre eux. Il faut absolument qu'on sorte de cette idée et qu'on se rende compte que dans une société de consommation, les situations de surendettement sont une contrepartie à la société de consommation. Plus on pousse les gens à consommer, plus on a de chances qu'un certain nombre d'entre eux, parce qu'il y a des accidents de la vie, ne soient plus en mesure d'assumer le rythme de consommation qui est proposé, pour ne pas dire imposé, par la société.
Son rêve n'appartient qu'à elle. Le sien n'appartient qu'à lui. Pour votre prêt très personnel, appelez dès maintenant Sofinco au 0800 101 102.
Merci à tous, merci au juge Étienne Rigal que vous venez d'entendre, merci à Robert Scalès de l'association Ami Conseil. Le téléphone de l'association Ami Conseil, c'est le 01 64 20 32 87. 01 64 20 32 87. Merci à Christian Devel, président de Chômeurs et Précaires de Paris, à Sandra, à Maria, à Claude et à Jacques, à Marc et Aïcha du collectif Assez de Sarcelles. C'était un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Lydvine Caron et Olivier Daligo. Mise en onde, Antoine Chao. Musique et costume, assistant Coy Nguyen. Assistante Anne de Giaferi. Le répondeur de la basse justice, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui vous écoute, réclame.